Chapitre 3. L'artiste et la Parisienne. Pendant un mois environ, Jacques fut le plus heureux des hommes. Il avait réalisé son rêve. Dans son atelier, que Marie-Thérèse se plaisait à orner des fleurs préférées de son mari, il travaillait avec un renouveau d'ardeur et d'allégresse. Car, ainsi qu'il avait tant souhaité, il la sentait là, tout près, toute voisine de son magnifique effort, inspiratrice de ses magnifiques envolées. Ses brèves et discrètes apparitions auprès de lui achevaient de donner des ailes à son talent. Tout vibrant de son émotion d'artiste, il lui montrait ses œuvres et elle ne se contenait plus de résumer ses impressions en deux mots, peut-être très français, mais si faux, parce que si loin l'un de l'autre. C'est gentil ou bien c'est formidable. Non, maintenant elle disait pourquoi elle admirait. Et jamais la satisfaction de son mari n'était plus grande que lorsque, à ses éloges toujours justes, il se mêlait une légère critique presque toujours exacte, et dont elles excusaient avec tant de grâce que Jacques ravi s'écriait « Ah, que je suis content de te voir t'intéresser à ce que je fais. Ne trouves-tu pas que la vie est douce ainsi ? Trop douce, sans doute, et par suite trop monotone. Car bientôt, malgré elle, sans trop s'en rendre compte, Marie-Thérèse finit par s'en fatiguer. Elle commença par sortir davantage dans l'après-midi, rejoindre à mettre l'heure du thé quelques amis qui lui rapprochaient de se laisser chambrer ainsi. Il pouvait même la rosserie jusqu'à lui dire qu'elle avait engraissé et qu'elle commençait à perdre cette jolie ligne dont elle était si fière. Il en fallut pas plus pour faire évanouir toutes ses belles résolutions. Le matin, elle se mit à faire du footing, l'après-midi à jouer au tennis, où naturellement elle rencontra des partenaires qui lui déclaraient qu'elle avait bien tort de s'enterrer ainsi, sans lui parler des spectacles, des films qu'il fallait avoir vus, des nouvelles boîtes de nuit qui exigeaient une visite. Et puis après tout, si son mari l'ennuyait, elle n'avait qu'à sortir sans lui. Un tas de jeunes femmes n'en faisaient-elles pas autant, et somme toute, elle n'avait qu'à s'en louer. Rentrée chez elle, Marie-Thérèse se reprit à ruminer tous ses propos qu'elle avait entendus. Aussi, pendant le dîner, fut-elle moins gaie que de coutume. Jacques s'en aperçut, car aucune nuance ne lui échappait quand il s'agissait de sa femme. Il l'interrogea discrètement sur les gens qu'elle avait rencontrés dans la journée. Elle les lui nomma sans la moindre hésitation. Ils parurent laisser Jacques indifférent. Alors lui se mit à raconter à Marie-Thérèse les potins de coulisses qu'il avait recueillis au cours d'une visite au directeur du Moulin Rouge. La jeune femme, qui d'habitude prenait du plaisir d'autant plus vif au récit de son mari et au mille et un rien de la vie parisienne, qu'il retraçait d'ailleurs avec infiniment d'esprit, parut les écouter d'une oreille plutôt distraite, et la conversation languit presque jusqu'à la fin du dîner. En se levant de table, Gervais proposa « Montons dans l'atelier, tu me feras un peu de musique. » Marie-Thérèse accepta avec plus de résignation que d'enthousiasme. Elle était pourtant une excellente musicienne, l'une des meilleures élèves de la grande pianiste Mademoiselle Octavie Carrier-Belleuse, dont l'admirable enseignement devait servir d'exemple à tant de professeurs. Ce soir-là, au lieu de s'attaquer à une sonate de Beethoven ou à un nocturne de Chopin, elle se mit presque inconsciemment à jouer l'un de ces odieux Charleston qui ont une certaine couleur lorsqu'ils sont exécutés par un jazz, mais deviennent quelque chose de hideux lorsqu'on les transpose au piano. Quelque peu étonné, Gervais s'écria: Mais c'est horrible ce que tu me joues là! Oh non, je ne suis pas de ton avis, répliquait Marie-Thérèse. Je trouve au contraire que cette musique nègre a son charme. En tout cas, cela vaut bien les accents macaroniques de Puccini et les niaiseries sentimentales de Reinaldo Hahn. Avant tout, moi, je préfère une sonate de Mozart, les variations symphoniques de César Franck. Bon, mais toi, tu n'aimes que les classiques. Mais pas du tout. J'apprécie énormément les maîtres modernes et j'éprouve toujours une grande sensation d'art. Lorsque tu me joues, par exemple, je sais pas moi, la cathédrale engloutie de Debussy. Mais je t'en prie, laisse-moi m'amuser. Et Marie-Thérèse continua son Charleston. Jacques se leva, s'en fut prendre un livre, s'assit à l'autre bout de l'atelier et se plongea dans sa lecture. Le lendemain matin, au déjeuner, sa femme lui annonça à brûle-pourpoint: Qu'est-ce que nous faisons ce soir? Un peu surpris par cette question directe, Gervais répliqua: Mais rien, oh, c'est-à-dire que j'ai rendez-vous avec Noirmont, le metteur en scène du Moulin Rouge. Bon, alors c'est bon, n'en parlons plus. Mais n'en parlons plus de quoi? Non, rien. Mais pourquoi me faire des cachotteries, ma chérie? Je ne te fais pas de cachotteries. Mais si, je le vois. À quoi? À la moue de tes jolies lèvres et aux légers plis qui sillonnent ton front. Je parie que tu avais envie d'aller au théâtre. Au théâtre, non, mais ce soir, toute la bande va au cinéma. Quelle bande? Les Darmel, les Wandsberg, les Dacrossa, le Titoru Fanny, Miss Blonde Blueberry, Sandy Politescu, enfin rien que des Parisiens par cent. Ah, tu trouves que ce sont des Parisiens pur sang? Il n'y a que toi pour prétendre le contraire. Eh bien, soit, ce sont des Parisiens pur sang. Alors tu dis qu'ils vont au cinéma, auquel? Au Colisée, parbleu. Il y a un programme intéressant? Je n'en sais rien. Je crois qu'ils ne sont pas beaucoup mieux renseignés que moi. Alors, ce n'est pas pour voir des films qu'ils vont là tous les vendredis. C'est pour chahuter, pour siffler, faire du tapage. Et on ne les expulse pas. Au contraire, c'est la principale attraction de la soirée. Ça doit être très drôle. On y va? Mais ma pauvre petite, je ne peux pas remettre Normand. Il a besoin de mes directives pour la répétition de demain. Bon, il est bien rasant, ce Noirmont. Nous irons vendredi prochain. Oui, et puis vendredi prochain, il y aura encore un autre empêchement. Voyant l'air boudeur qu'avait pris sa femme, j'en fis, espérant bien qu'elle allait lui répondre négativement. Eh bien, tu n'as qu'à y aller sans moi. Cette fois, à son étonnement et à sa déception, Marie-Thérèse répondit avec décision: Eh bien, c'est entendu, je vais téléphoner au Wandsberg qu'il peut venir me chercher. L'auto est à ta disposition. Mais non, mon petit, inutile de déranger notre chauffeur dont tu auras besoin demain matin de très bonne heure. Les Darmel me rentreront. Gervais n'insista pas. Il sentit son cœur se serrer douloureusement, car il venait de comprendre que sa femme allait lui échapper. Mais il ne laissa rien voir de son angoisse. Il espérait qu'au dernier moment, elle se ressaisirait et resterait près de lui. Il n'en fut rien. Elle partit après l'avoir embrassée au front rapidement. Il fut sur le point de s'élancer à sa poursuite, de lui crier: « Mais j'y vais, moi aussi! » Mais on annonçait M. Noirmont. La raison l'emporta sur l'amour. Jacques donna l'ordre de faire monter le metteur en scène dans son atelier. Il le rejoignit presque aussitôt, le temps de se ressaisir, et de donner à sa physionomie tourmentée son aspect habituel de belle humeur. Tant que dura son travail, il n'éprouva ni ne manifesta aucune inquiétude, aucune tristesse. Mais lorsque M. Noirmont se retira et qu'il se retrouva seul dans le vaste atelier, ce fut un vrai désastre, sentant au bout de quelques minutes que l'absence de son idole lui devenait insupportable au point de lui arracher des larmes. Il prit la subite résolution d'aller la chercher. Rapidement, il passa son pardessus, empoigna son chapeau et sortit. Il eut beaucoup de peine à trouver un taxi et il perdit ainsi plus d'un quart d'heure. Aussi, lorsqu'il arriva au Colisée, le spectacle était-il terminé. Il résolut de rentrer aussitôt chez lui afin de rassurer Marie-Thérèse, car il ne doutait pas qu'elle s'inquiéterait de son absence. Il sauta de nouveau dans un taxi et promit un gros pourboire au chauffeur si celui-ci le ramenait rapidement chez lui, ce qui fut fait. En descendant d'auto, il constata qu'aucune fenêtre de l'hôtel n'était illuminée. Il s'ouvrit lui-même, car les domestiques étaient couchés, et il se rendit à sa chambre. Elle était vide, ainsi que le cabinet de toilette. Il eut d'abord l'idée que Marie-Thérèse était cachée quelque part, en manière de plaisanterie. Il explora toute la maison sans succès. Alors il se dit: Oh, mais ne me trouvant pas là, elle aura cru que j'avais fait un coup de tête. Elle sera partie à ma recherche. Mais que faire? Où aller? Mieux valait ne pas s'égarer et s'éloigner encore davantage l'un de l'autre, en une poursuite incertaine. Et il demeura là, à la fenêtre, guettant, avec l'anxiété douloureuse d'un amant, le retour de l'adoré. À chaque voiture de maître qui s'approchait, son cœur battait plus violemment, car il se disait: Oh, la voici! Mais quand il constatait que le véhicule, au lieu de s'arrêter devant la porte, continuait son chemin, le véritable désespoir qui le secouait se traduisait par ces mots qui tombaient lourdement dans le silence environnant. Mais où est-elle, mon Dieu, où est-elle? Enfin, vers 3 heures du matin, un cabriolet, carrossé sport et au moteur très puissant, stoppait devant son hôtel. Ne reconnaissant pas la conduite intérieure des Wandsberg, Gervais, subitement affolé, se dit: Oh, il a dû arriver malheur à Marie-Thérèse! Mais à peine cette pensée sinistre avait-elle traversé l'esprit qu'il apercevait sa femme descendant d'auto. Après avoir adressé un geste d'au revoir à un jeune homme installé au volant, elle se hâtait vers la porte. Jacques se précipita pour lui ouvrir. Trop tard. Marie-Thérèse était déjà dans le vestibule dont elle avait tourné le commutateur. D'où viens-tu? Telle fut la première question que lui posa l'artiste. Et du souper, répliqua la jeune femme avec le sourire le plus naturel du monde. Mais tu aurais pu me prévenir, reprenait Gervais, car j'étais mortellement inquiet. J'ai téléphoné, mais on m'a dit que personne ne répondait. Cela devait être vrai, car j'ai entendu dans l'appareil que l'on sonnait ici plusieurs reprises. Elle a dû me demander pendant que j'étais au Colisée, se dit-il. Mais, ne voulant pas passer à ses yeux pour un mari jaloux, encombrant, et déjà presque ridicule, il garda le silence et parut se contenter de cette explication. Marie-Thérèse commença à gravir l'escalier qui donnait au premier étage. Comme Jacques demeurait sur place sous le coup de l'angoisse instinctive qui l'accablait, elle se retourna et dit d'un ton ironique: Tu entends encore donc quelqu'un? Mais non. Eh bien, monte. Jacques, docilement, lui emboîta le pas. Ils arrivèrent à leur chambre. Marie-Thérèse jeta sur un fauteuil son manteau de soirée. Jamais peut-être encore Jacques ne l'avait trouvée si belle. Et pourtant, ils demeuraient à quelque distance d'elle, froid, impassible, les dents serrées et le regard attristé. « Mais qu'as-tu ? » interrogea la jeune femme. « Rien, » répliqua Jacques d'une voix morne. « Alors donc, tu es furieux parce que je suis sorti ce soir sans toi ?»« Non, pas du tout. » « Mais ne mens donc pas. Je dis la vérité. Non, ce qui m'a énervé, c'est que tu sois rentré si tard. Mais ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas entendu la sonnerie du téléphone. » Il y eut un silence, puis Marie-Thérèse fit. « Chérie, veux-tu m'aider à me déshabiller ?»« Bon, volontiers. » Il s'approcha lentement, sans le moindre empressement. D'un geste agacé, Madame Gervais enleva elle-même sa robe par-dessus sa tête. « Mais donne-moi, moi, le temps !» observait Jacques. « Mais tu n'en finis pas !»« Et toi, vraiment, tu es d'une nervosité !»« Oh, je t'en prie !» Il y eut un nouveau silence, annonciateur de querelles, que Gervais tenait à éviter, d'autant plus que jamais encore la moindre dispute s'était élevée entre sa femme et lui. Il ne voulait pas qu'entre elle et lui fussent échangées de ces paroles regrettables qui créent dans un ménage les premiers malentendus. Aussi, tout en cherchant et en parvenant à se dominer, il fit d'un ton volontairement léger. « Où as-tu soupé ?»« Oh, ce sont les Darnelles qui m'ont entraîné, » répondait en hâte la jeune femme. « Et où cela ?» « Oh, dans une nouvelle boîte de Montmartre, dont je ne sais même pas le nom. »« C'était amusant ?»« Assez. Il y a là un ténor nègre remarquable. » Négligemment et sans paraître accordé à ce qu'il disait la bonne importance, Gervais insinuait. « Je croyais que les Vansberg devaient te reconduire. »« Oui, c'était convenu en effet, » répliquait Marie-Thérèse, sans la moindre gêne apparente. « Mais Madame Vansberg a été prise d'une névralgie. Elle n'a même pas pu rester au cinéma jusqu'à la fin. Alors, comme les Darnelles l'emmenaient avec eux, Miss Bradwell et son flirt... » « Son flirt. Oui, Titolo Fanny, un Italien charmant d'ailleurs. Salut Polisco m'a fort aimablement proposé de me rapatrier à Auteuil. »« Stani Politesco, mais connais pas, » fit sèchement l'artiste. « Non, je sais, mais il a le plus vif désir de t'être présenté. C'est un poète romain, il a beaucoup de talent. »« Comment le sais-tu ? » « On me l'a dit. Mais mon petit, je t'en prie, couchons-nous. Demain matin, tu seras fatigué et tu diras encore que c'est ma faute si tu n'es pas en train de travailler. » Jacques n'insista pas. Il avait compris que son ménage était brisé. Il ne se trompait pas. Le tout Paris lui avait volé son idole. Il essaya par tous les moyens de le reconquérir. Ce fut en vain. Lorsqu'une femme est infestée par ce virus qu'on appelle le snobisme du plaisir, il est inutile de chercher un contrepoison. Il n'en existe pas. Mais il se sentait encore si éperdument amoureux de Marie-Thérèse qu'il s'accrocha désespérément à l'espoir qu'à force d'indulgence, de douceur et de bonté, il la ramènerait à lui. Un an se passa sans apporter aucune amélioration à cet état de choses qui le torturait sourdement. L'amour de son art et le respect de son travail le sauvèrent du désespoir. Et puis, sa femme avait des exigences d'argent de plus en plus considérables. Et il tremblait à la pensée qu'en ne lui en donnant pas assez, il s'en fût en demandé à d'autres. Un instant, il songea au divorce. Il la fit surveiller discrètement par plusieurs détectives privés. Et tous furent unanimes à lui affirmer qu'elle n'avait pas d'amant. Et c'était vrai. Marie-Thérèse était une sorteuse, et c'est tout. Et durant les rares instants d'intimité qu'elle accordait à son mari, celui-ci retrouvait toujours l'amante des premiers jours. Jacques se dit que la maternité serait le remède le plus efficace à cette espèce de folie mondaine dont sa femme était atteinte. Mais alors elle lui déclara qu'elle ne voulait pas d'enfant, parce que d'abord être enceinte représentait pour elle le summum du grotesque et de l'ennui, et elle ajouta qu'une de ses cousines était morte en couche et qu'elle n'avait pas envie d'en faire autant. Dès le lendemain, elle exigea que Jacques et elle fissent chambre à part, non pas ainsi qu'elle le disait, parce qu'elle voulait se soustraire au devoir conjugal, mais parce qu'elle voulait être à l'abri de toute surprise. Jacques céda encore et en fut d'autant plus malheureux qu'il n'avait personne autour de lui à qui faire ses confidences. Ses parents, ils étaient incapables de comprendre et mieux valait ne pas troubler leur aveugle et béat optimiste. Les Castalets, mais s'ils se plaignaient à eux de leur fille, l'aimable indifférence qu'ils lui avaient témoignée jusqu'alors se changerait aussitôt en une hostilité systématique. Des amis, oh, il en avait, mais il en est si peu qui savent compatir au genre de peine dont il souffrait. Et puis, en étalant devant des tiers la misère de son cœur, n'était-ce pas un blâme direct qu'il adressait à sa compagne? Les quelques paroles de commisération, les quelques conseils, plus ou moins adroits, qu'il obtiendrait en échange de sa révélation pénible, ne valait pas le risque de nuire à la réputation de sa femme et de donner prise à certains potins et médisances qui circulaient déjà sur son compte. Cette cruelle et silencieuse épreuve n'avait pas été sans altérer quelque peu sa santé, jusqu'alors si robuste. Il s'en fit voir à un médecin très connu qui lui avait été recommandé par le directeur du Moulin Rouge. Le praticien, après avoir tâté dans tous les sens et examiné avec attention les analyses du sang et autres qu'il avait envoyées, lui déclara qu'il mangeait et buvait trop, et qu'il abusait avec exagération de ce qu'on est convenu d'appeler les bonnes choses de la vie. Jacques eut beau affirmer, ce qui était vrai d'ailleurs, qu'il avait une hygiène parfaite, le Diafoirus académique ne l'en colla pas moins à un régime excessivement sévère. Au bout d'un mois de cette dangereuse expérience, il n'était plus qu'une loque. On lui donna l'adresse d'un autre médecin, peut-être moins célèbre que le premier, mais à coup sûr beaucoup moins exclusif. Tout de suite, il diagnostiqua la véritable mal dont souffrait le jeune artiste, la neurasthénie. Il lui conseilla d'envoyer promener son régime, surtout de changer d'air, de voyager, si cela lui était possible. On était à la fin de juillet. Marie-Thérèse était depuis quelque temps déjà chez ses parents à Deauville, où Gervais comptait prochainement la rejoindre. Il y renonça et partit seul en auto visiter la Bretagne. Il était déjà depuis 3 semaines en route et s'était arrêté dans cette si jolie localité du Finistère qui s'appelle Saint-Paul-de-Léon, dont l'admirable clocher, dit le Kreisker, et de là à non moins merveilleuse cathédrale, avait excité son enthousiasme, lorsque, sur la grande place, il assista un soir à une représentation que donnaient des bohémiens. Parmi eux se trouvait une jeune fille triste, mélancolique et belle. Elle attira et retira l'attention du jeune artiste, non pas seulement parce que sa danse ne ressemblait pas à celle des autres, et qu'elle exprimait toute la gamme des sentiments humains qui peuvent naître d'un cœur tendre et d'un cerveau profond, mais encore parce qu'elle était délicieusement, divinement blonde. Tout de suite, il songea: oh, mais quel succès elle aurait au music-hall! Mais il n'attacha pas plus d'importance à cet incident de route, et il l'avait déjà oublié lorsqu'un jour, un peu avant d'arriver à Tréguier, il aperçut une femme vêtue d'étranges oripeaux qui pleurait assise sur un tas de cailloux au bord de la route. On dirait une petite bohémienne de Saint-Paul, se disait-il. Il stoppa, sauta à bas de sa voiture et s'avança vers celle qui, tout à son chagrin, ne semblait plus rien entendre ni voir personne. Jacques ne s'était pas trompé, c'était bien elle. Il lui toucha doucement l'épaule. Elle tressaillit, releva la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Vous semblez malheureuse, interrogea le jeune artiste. Les larmes de la bohémienne redoublèrent, et simplement elle montra à son interlocuteur son bras presque nu sous sa manche arrachée. Il portait une forte contusion qui marquait d'une tache d'encre une peau que, sous le hâle du grand air qui la patinait, on devinait blanche et fine, et, secouée par les sanglots, elle hoqueta: c'est encore Tirco qui m'a battu. Tirco? Oui, le chef. Mais pourquoi? Parce que je ne voulais pas voler. Ainsi que Wilhelm Meister, lorsqu'il rencontra pour la première fois Mignon sur sa route et qu'il l'arracha aux brutalités de l'immonde Jarno, Jacques se sentit immédiatement envahi par une incommensurable pitié. Encouragé par le regard compatissant dont l'enveloppait son interlocuteur, la bohémienne blonde reprit avec un très léger accent, qui n'était que le reflet atténué de celui des gens au milieu desquels elle vivait: il ne m'aime pas, Tirco, parce que je ne suis pas de sa race. Ah, vraiment? S'exclamait Gervais. Et vivement intéressé, il demanda: mais d'où venez-vous donc? Je ne sais pas. Et comment se fait-il que vous vous trouviez au milieu de ces nomades? Je ne sais pas, répondait toujours la malheureuse. Parfois, il me semble que je revois des grands bois, une rivière, une maison blanche, et que j'entends comme au loin, très loin, des voix qui me parlent avec bonté. Et puis, tout cela s'efface, disparaît comme un rêve. Comment vous appelez-vous? Mitsa. C'est le nom qu'ils m'ont donné, et je n'en connais pas d'autre. Mais quel âge avez-vous? Je ne sais pas. Vous n'avez jamais eu l'idée de quitter cet homme qui est si méchant pour vous? Ils sont tous méchants. Alors pourquoi restez-vous? D'abord, aucun lien de famille ne vous attache à eux. Ensuite, vous êtes majeur et vous avez le droit de reconquérir votre liberté. Mitsa dirigea ses grands yeux noirs vers le jeune artiste. Elle ne pleurait plus, mais ce fut cependant d'une voix encore toute tremblante d'incertitude et de désarroi qu'elle murmura: mais où irai-je? Gervais reprit: voulez-vous me laisser vous sauver? Vous? S'écria la bohémienne blonde avec méfiance. Mais je ne vous connais pas. Mais moi, je vous connais, riposta Jacques. Je vous ai vu danser l'autre jour. Où cela? Mais à Saint-Paul-de-Léon. Je suis arrivé trop tard, eh bien, je n'hésite pas à vous le dire. Vous m'avez enthousiasmé. Moi, pas possible, s'étonnait sincèrement Mitsa, et avec un demi-sourire, elle ajouta: pourtant, je dansais bien mal ce jour-là. C'était le jour où Tirco m'avait battu. Bon, je puis faire mieux, beaucoup mieux. J'en suis sûr, déclarait Jacques. Sur un ton plein de gravité, il continua. Écoutez-moi bien, petite Mirza. Je vous parle très sérieusement. Vous pouvez devenir un jour beaucoup plus prochain que vous ne le pensez, une très grande artiste. Ce n'est pas possible. Si, vous ne vous moquez pas de moi. S'il en était ainsi, je serais le dernier des lâches. Et croyez-moi, Mitsa, je suis un très honnête homme. Mais vous en avez l'air. Parlez encore, je vous écoute. Gervais poursuivait avec un accent de conviction chaleureuse qui allait convaincre la pauvre petite. Je puis vous fournir dès maintenant le moyen de vous délivrer de Tirco et de sa bande et d'en finir avec une existence lamentable. Je suis en effet le dessinateur attitré d'un grand music-hall de Paris. Je suis en excellent rapport avec le directeur de cet établissement. Il cherche toujours de l'inédit. Il y a peu de temps, il me disait combien il lui était difficile de mettre la main sur des attractions originales. Il a besoin de vedettes nouvelles, vous pouvez en être une. Moi? Vous, mais à une condition. C'est de rester l'artiste inné que vous êtes et de ne chercher l'inspiration qu'en vous-même. Je vais vous remettre une somme d'argent grâce à laquelle vous pourrez prendre le train pour Paris et où je serai demain soir. Voici mon nom et mon adresse. Il lui remit sa carte à laquelle il joignit un billet de 1 000 francs tout en disant: Mais je regrette de ne pouvoir vous emmener tout de suite avec moi, mais je suis marié et je ne voudrais pas, autant pour vous que pour moi, que l'on tînt sur nous de vilains propos. Comme vous êtes bon de me parler ainsi, s'écria Mitsa. Alors vous acceptez? J'accepte. Demain soir, vers quelle heure pourrais-je aller chez vous? Jacques réfléchit un instant, puis il lui dit: J'irai vous attendre au train qui doit arriver aux environs de 7 heures du soir à la gare Montparnasse. Je m'assurerai de l'heure exacte. Vous serez là, n'est-ce pas? Fit la bohémienne blonde en jetant un regard un peu inquiet vers l'auto de son bienfaiteur. Oui, soyez tranquille, ma voiture peut faire du 120 à l'heure. N'est-ce pas trop vite? Je m'en voudrais toute ma vie s'il vous arrivait un accident à cause de moi. Ne vous tourmentez pas, vous me trouverez sur le quai de la gare à l'heure dite. Elle lui tendit la main. L'artiste la lui serra doucement, puis il se dirigea vers sa voiture. Mitsa se leva et l'accompagna. À demain, fit-elle. À demain, répondit-il. Il démarra et disparut dans un nuage de poussière. Bientôt, Gervais se reprocha d'avoir cédé à un emballement un peu trop rapide. Qui sait, se demanda-t-il, si cette petite ne m'a pas roulé. Toute cette histoire, pour à présent, me semble trop romanesque pour être vraisemblable. Et il se pourrait fort bien que ce soir, Tirco et sa tribu, y compris Vinça, fassent ripaille avec mon billet de banque. Après tout, tant pis. Cette Mirsa me paraissait tellement sincère que, somme toute, j'ai mieux fait de risquer la partie, quitte à la perdre, ainsi que c'est probable. Le lendemain, après avoir brûlé les étapes, il arrivait à Paris assez tôt pour passer chez lui, prendre un bain reposant et troquer ses vêtements de touriste pour ceux d'un correct gentleman. Cela fait, il se rendit à la gare Montparnasse, de plus en plus persuadé que Mitsa était restée là-bas. Pas du tout. Une des premières, elle descendit du train, regarda autour d'elle toute dépaysée. Puis, reconnaissant son bienfaiteur qui s'avançait vers elle, elle fit, soulagée de l'anxiété qui l'avait étreinte pendant tout le trajet: Oh, j'avais peur de ne pas vous revoir. Eh bien, pourtant, je suis venu. Gervais l'entraîna afin de la soustraire à la curiosité du public, qui commençait à trouver très drôle de voir un jeune homme aussi chic que le jeune artiste se faire le chevalier servant d'une bohémienne en costume de route. « Ma petite Mitza, dit Jacques, je ne peux pas vous recevoir chez moi, mais je vais vous conduire dans un hôtel très simple dont je connais le directeur, auquel je vais vous recommander et qui se montrera très gentil envers vous. Et dès demain, je vous présenterai à M. Corbert, le directeur du Moulin Rouge. Il faut qu'il vous voie tel que vous êtes, et je vous garantis qu'une heure après, vous aurez signé avec lui un bel engagement et que vous débuterez dès la rentrée dans la prochaine revue. « Oh, c'est trop beau, c'est trop beau !» s'écriait Mitza avec une jolie voix toute enfantine. Le lendemain, Gervais présentait Mitza à son ami Corbert. Contrairement à son attente, celui-ci ne s'emballa pas. Loin de là, l'audition, en effet, ne donna pas ce qu'on en espérait. La bohémienne blonde, déroutée par un accompagnement au piano, si différent de la guitare et du tambourin, qui seul jusqu'alors avait rythmé ses danses, perdit la plus grande partie de ses moyens. En outre, mal éclairée par le luminaire des plus restreints qui lui avait été dévolu, elle perdit les trois quarts de son originalité. Le manager, qui était assis à l'orchestre auprès de Gervais, se pencha vers lui et lui dit « C'est cela votre phénomène? Vraiment, mon cher, je ne sais pas à quoi vous pensiez ce jour-là. » Et Jacques dut insister vivement pour que le directeur l'engageât à raison de 50 francs par représentation. Pour la causera où on le pourra, fit Corbert, généralement plus clairvoyant. Arrangez-vous avec l'auteur et le metteur en scène, afin que ce ne soit pas un désastre. En fait de désastre, nous avons vu plus haut que ça avait été un triomphe. Le sens artistique du dessinateur l'avait emporté sur l'expérience du directeur. Mitza, ou plutôt Marquita, la bohémienne blonde, venait d'être sacrée grande vedette. Et pourtant, celle qui aurait dû rayonner d'allégresse était là, courbée sous le poids d'une mystérieuse douleur, pleurant au lieu de sourire, et n'ayant même pas, pour celui auquel elle devait tout, l'élan de gratitude qu'il était en droit d'exiger d'elle. Chapitre 4. Après le triomphe. Gervais songeait. Sans doute c'est un excès de joie. Il se pencha vers elle et lui dit « Pourquoi pleurez-vous ainsi ?» La bohémienne ne répondit pas et garda sa tête entre ses mains. « Voyons, qu'avez-vous ? » insistait Jacques. « C'est pas raisonnable après un tel succès. » Comme elle continuait à garder le silence, il reprit. « Seriez-vous fâché contre moi ?» Brusquement, elle releva la tête et tourna vers le jeune artiste son beau visage baigné de larmes. Elle fit d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Fâché contre vous, moi, qui vous dois tout, moi, qui vous suis attaché par une éternelle reconnaissance. Oh, pourquoi avoir une pareille pensée ? Mais ma pauvre petite, moi, je ne sais plus. Je m'attendais si peu à me trouver en face d'une pareille explosion de douleur. Je suis ridicule, n'est-ce pas ? Je ne dis pas cela, je m'inquiète. » Seulement de vous voir ainsi, et je voudrais savoir. » La bohémienne blonde eut un haussement d'épaule qui semblait vouloir dire à quoi bon. Jacques insistait avec l'accent de la bonté qui était inné en lui. N'ai-je pas un peu le droit d'être votre confident ? Si, eh bien parlez. Vous ne pouvez pas, vous voulez-vous que je vous interroge ? Marquita eut un signe d'acquiescement. Gervais reprenait aussitôt. « N'auriez-vous pas laissé là-bas quelqu'un que vous regrettez ?»« Moi !» s'écria la jeune lie danseuse, subitement frémissante. « Mais tous ces hommes, Je les haïssais de fond de mon âme. Eux aussi, ils me détestaient. Jamais l'un d'entre eux ne m'a considéré comme une femme. J'étais pour eux à la fois une servante et un animal savant dont ils cherchaient à leur tirer profit. Jamais d'ailleurs, je vous le jure, je n'ai donné mon cœur ni rien de moi à personne. Seulement, elle s'arrêta, hésitante. On eût dit qu'elle redoutait l'effet qu'allaient produire sur son interlocuteur les paroles qu'elle se préparait à prononcer. Mais lui, il encourageait du geste, du regard. Il avait pris ses mains fiévreuses. Il les tenait dans les siennes, et de plus en plus troublées, moins douloureuses, cependant, en ne pleurant plus. Elle reprenait. « C'est étrange ce que je vais vous dire, mais tout ce que j'ai été parmi ces nomades, je n'ai jamais eu l'idée de savoir qui j'étais. Ils m'avaient raconté une bonne fois pour toutes qu'ils m'avaient trouvé l'hiver dans le nord, au coin d'un bois, enroulé dans une couverture et évanoui sous la neige. Je les avais crus, et puis à quoi bon les aurais-je interrogés? Ils ne m'auraient pas dit autre chose. » Alors, petit à petit, je me pliais à toute leur volonté. Par peur d'être battu, je leur obéissais. J'étais comme une pauvre petite bête sauvage qui, née dans une ménagerie, n'a jamais connu que la cage et la cravache de son monteur. Plusieurs fois, j'ai eu des intentions de révolte. Un jour, je m'enfuis, mais ils ne furent pas longtemps à me rattraper. Ils me rouèrent tellement de coups que je promis de ne plus recommencer. Et puis, il y avait parmi eux une femme terrible, Tyria, une vieille sorcière. Oh, j'en avais grand-peur. Elle avait réussi à me faire croire que si je m'en allais encore, ses tarots lui révéleraient l'endroit où je me cachais et qu'elle le dirait aux autres afin qu'ils me reprennent. « Pauvre petite !» murmurait Guévré, auquel Marquita n'avait pas encore raconté tous ces détails. Maintenant, elle poursuivait, enhardie, décidée à tout dire. Tyria est morte il y a 2 mois. Si elle avait été vivante, jamais je n'aurais osé vous rejoindre à Paris. « Mais croyez-vous donc, s'écriait Gervais, que je n'aurais pas été capable de vous défendre contre ces vilaines gens ?»« Oh si, mais elle, la vieille, elle m'aurait jeté au sort. » « Comment, Marquita, vous croyez encore à toutes ces superstitions ?»«
Oui, »
répliquait la petite ballerine des grandes routes et des places publiques. Et avec une conviction impressionnante, elle poursuivit. « J'ai vu s'accomplir des choses que la vieille Tyria m'avait prédites. Elle prétendait entre autres que je serais un jour l'une des reines de Paris. » Mais qu'alors les souffrances que j'endurerais ne seraient rien à côté de celles que j'avais déjà supportées. Gervé conseillait, « Il faut chasser loin, très loin de vous, ces tristes pensées qui ne sont que l'écho mensonger d'un passé qui, pour nous, doit être à jamais aboli. Oh, »« Mais ce n'est pas pour cela que j'ai pleuré, » affirmait Marquita. « Alors pourquoi ?» Parce que, à présent que je connais mieux le monde, et que, maintenant que je suis où je vais, je ne cesse de me demander d'où je viens. Je me dis que ces bohémiens n'ont sans doute volé à des parents qui me chérissaient et qui me pleurent peut-être encore, tant ma disparition a dû marquer en eux un sillon d'inguérissable souffrance. Je pense aussi que jamais ils ne me reverront, jamais je ne les retrouverai, et que je mourrai sans savoir qui je suis. Certes, ce soir, j'étais heureuse, très heureuse de mon succès. D'abord à cause de vous, parce que seul vous avez cru en moi, que vous m'avez réconforté lorsque le découragement m'abattait, et que vous me donniez aussi d'excellents conseils auxquels je dois ma réussite. Puis aussi parce que je comprenais, en livrant cette grande bataille, que je venais de reconquérir cette indépendance vers laquelle depuis longtemps se tendaient tous mes désirs. Et puis, tout à coup, je me suis dit, Mais à quoi bon tout cela? Je n'ai ni famille, ni foyer. L'argent, oh, c'est très utile, c'est même très beau. Je ne le méprise pas. Récemment encore, je peinais trop pour gagner quelques sous que Tiercio me reprenait, pour ne pas apprécier cette fortune que je vous dois, mais après, quelle vie autour de moi! Mais ne croyez pas cela, protestait Jacques. Vous allez être extrêmement fêté, adulé. Ce n'est pas cette joie-là que je recherche, déclarait la bohémienne blonde. Ce que je voudrais, c'est le parfum tendre et discret d'une intimité reposante. C'est en rentrant chez moi, elle s'arrêta, un sanglot de nouveau gonfla sa poitrine. Jacques l'attira vers lui et fit, avec cette douceur nuancée de force qui le caractérisait, je vous devine, chère petite fleur poussée dans les ruines et parmi les ronces, puis transplantée en plein soleil, dans un parterre où, du premier coup, vous brillez d'une si rare éclat que déjà vous éclipsez les autres. Vous êtes encore étourdi par l'aventure extraordinaire qui vous arrive, par le véritable conte de fées que vous vivez, et cela parce qu'il vous manque le prince charmant. Mais rassurez-vous, avant peu, dès demain, il ne s'en présentera que trop pour cueillir votre cœur. Je vous connais assez pour être sûr que vous ne vous donnerez qu'à celui que vous aimerez vraiment. Mais prenez garde à l'amour. L'amour, c'est ce qui vous donne ici-bas le maximum de joie, mais aussi le summum de douleur. Et il ajouta d'un ton douloureux, oh, je puis vous en parler, puisque j'aime une femme dont je me suis cru aimé, une femme qui, pendant une demi-année à peine, a fait de moi le plus heureux des hommes, et maintenant me fait connaître les plus atroces tortures. Alors, interrogeait Marquita, vous croyez que lorsqu'on s'aperçoit que l'on est plus aimé, cela ne suffit pas pour éteindre toute flamme? Oui, il devrait en être ainsi, Marquita, reprenait Jacques. Mais la loi mystérieuse qui rapproche les cœurs n'a pas voulu ou n'a pas pu empêcher que la fidélité de l'un survécût à l'abandon de l'autre. Oh, je puis vous en parler par expérience. À plusieurs reprises, j'ai voulu m'arracher à cette véritable obsession, à cette hantise lancinante qu'est mon amour pour ma femme. Je me suis révolté contre ma lâcheté morale, contre le réel asservissement que j'avais accepté. Avant de rompre tout à fait, j'ai essayé de m'éloigner, de voyager, mais je suis toujours revenu vers elle. Je ne voudrais pas médire, car elle n'est pas méchante, mais elle est coquette. Il lui faut des adulations, des hommages. Elle n'aime pas son intérieur. Elle ne cesse de répéter, je suis de mon époque, voilà tout. Non, ne me trompe pas. Oh, je ne dis pas cela par amour-propre, mais uniquement parce que c'est la vérité. Elle n'est pas même flirteuse, même elle ne peut se passer de la société des hommes. Et de quels hommes? Ces snobs inutiles, prétentieux et bêtes, ces jeunes gens imbéciles qui ne cessent de proclamer la faillite du cœur, se considéraient comme très vieux jeux s'ils avaient une maîtresse, car ils ne mettent plus que les vagues sensualités que l'on rencontre au dancing ou les émois que vous procure l'opium, l'héroïne ou la coco. Tous ces gens que je me suis obligé de fréquenter tout de même à mes heures de loisir, parce que je ne veux pas que l'on puisse dire que je suis un mari imbécile ou complaisant. Vous ne pouvez pas vous figurer, ma pauvre petite Marquita, à quel point ils me dégoûtent. Ils me traitent avec une sorte de politesse froide qui prouve qu'ils ne me considéreront pas comme des leurs. Ah, ça non, jamais. Mais je ne prends même pas la peine de discuter avec eux. Ils sont navrants. Ils décrètent que ceci est bien, que cela est mal, sans savoir pourquoi. Uniquement parce qu'ils ont reçu le mot d'ordre d'avoir telle ou telle opinion sur telle ou telle individualité ou tel événement. Non, les niaiseries de ces conversations tour à tour empreintes d'une brutale gaieté provoquée par l'absorption de plusieurs cocktails. Et languissantes veulent, idiotes, coupées de temps en temps par un mot dont le manque d'esprit augmente encore la cynique cruauté. Lorsque je sors de ces réunions, presque gagné par cette contagion de vide que répandent autour d'eux toutes ces dindes et tous ces crétins, j'entends ma femme s'écrier avec une conviction qui me navre au point que je ne sais plus quoi lui répondre. Crois-tu que nous nous sommes amusés? Au lieu de t'abrutir à ton atelier, tu devrais venir plus souvent avec nous. Je t'assure que moralement et physiquement, cela te ferait beaucoup de bien. Maintenant, vous connaissez ce drame intime de ma vie. Je suis à la fois prisonnier de mon art, qui me défend contre ma femme, et esclave de ma femme, qui veut me détourner de mon art. J'ai beau me rappeler ce que m'a dit un jour mon maître, le grand peintre Duval Cuzelan. Il vaut mieux sacrifier une femme que de gâcher son talent. Une femme en trouve toujours, mais le talent jamais. Moi, je tâche de garder les deux, car je sais bien que je ne pourrai jamais me séparer de Marie-Thérèse. Oh, c'est affreux à dire, je crois même que si elle me trompait, je lui pardonnerais. Après tout, ma chère Marquita, je ne sais pas pourquoi je vous ai raconté tout cela. Ah, je m'en souviens à présent. C'était pour vous dire de prendre garde à l'amour. Maintenant, j'en suis sûr, vous devez vous dire que j'ai raison. Mon ami, reprenait la jolie danseuse, je vous plains de toute mon âme et je vous demande pardon d'avoir provoqué par mes pleurnicheries stupides des confidences qui ont dû vous faire beaucoup de peine. Oh, détrompez-vous, Marquita, s'empressait de déclarer Jacques. Cela, au contraire, a produit en moi une détente qui n'est pas encore de l'apaisement, mais qui est déjà un amoindrissement à ma souffrance. Lorsque je vous parlais, il me semblait que c'était une sœur qui m'écoutait. Il serait bon, je crois, pour nous de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Voulez-vous que nous convenions que désormais nous nous dirons toujours la vérité, toute la vérité. Une flamme subite s'alluma dans le regard de la bohémienne blonde, mais elle s'éteignit aussitôt. Et avec un sourire mélancolique, elle dit: Oh, toute la vérité, c'est impossible. Mais pourquoi? Interrogeait le jeune artiste. Gravement, Marquita répliquait: Parce que, ainsi que me le disait la vieille Thyria, il était parfois plus difficile de voir en soi que dans les autres. Jacques s'écria: Mais nous échangerons nos miroirs, c'est-à-dire nos âmes. Marquita se tut, on frappait à la porte de sa loge. C'était le reporter d'un grand journal d'information qui venait interviewer la nouvelle vedette. Guervais le connaissait, il s'appelait Octave Léris. C'était un garçon très correct et connaissant parfaitement bien son métier. Après s'être incliné devant la triomphatrice de la soirée, il tendait la main à Guervais tout en disant: Ah, il paraît, cher ami, que c'est vous qui avez découvert notre nouvelle étoile. Mais oui, répliquait le jeune dessinateur. Serait-il indiscret de vous demander dans quelles circonstances? Guervais répliquait: Oh, seule Mademoiselle Marquita peut vous répondre. Tout de suite, l'ex-médecin demandait à son bienfaiteur: Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je dise exactement à monsieur le journaliste comment cela s'est passé? Mais non, Marquita, votre aventure est trop savoureuse pour ne pas entièrement la raconter. Et je suis sûr, lorsque le grand public, celui qui va devenir le vôtre, apprendra votre véritable histoire, il sera attendri et charmé. Très simplement, Marquita fit à Octave Léris le récit de sa vie. à l'impression qu'elle parut produire sur le reporter, pourtant déjà très blasé et peu émotif, Jacques comprit qu'il ne s'était pas trompé en pensant que ce véritable conte de fées considérait à celle qui en était l'héroïne toutes les sympathies de la foule. Enchanté à la pensée du papier épatant qu'il allait réaliser, Octave Léris remercia vivement la jeune danseuse et prit congé d'elle. Lorsqu'il fut parti, Jacques lui dit: Ben, il faut que moi aussi je m'en aille. Quand vous reverrai-je? Demanda Marquita. Mais demain, attendez un peu. Oui, ma femme s'en va en auto, passer toute la journée chez des amis auprès de Fontainebleau. Ben, voulez-vous que nous déjeunions tous les deux en camarades? Oui, je le veux bien. J'irai vous prendre à votre hôtel. Entendu? Et regardant Marquita, devenue toute radieuse, il s'écria: Ah, le bonheur, j'aime mieux vous voir ainsi. Vous permettez que je vous embrasse. Il n'attendit pas qu'elle lui répondît et posa ses lèvres sur son front. Puis il fit presque gaiement: Allez, bonsoir, petite sœur, à demain.
Oui, à demain.
Lorsque la porte se fut refermée sur lui, Marquita, dont le visage s'était rembruni, murmura: Petite sœur, petite sœur, ah, comme il est raison de me dire, prenez garde à l'amour. Mais je crois que c'est trop tard, hélas. Oh oui, trop tard. Et deux grosses larmes coulèrent sur ses joues.